BFM Business, l'info éco.
8h30, les titres, Léo.
Eh bien, à la une, le voilà en position de défier Keir Starmer, le maire travailliste du Grand Manchester, Andy Burnham, qui vient d'être facilement élu député lors d'une législative partielle. Et on vous rejoint à Londres pour BFM Business, Baptiste Muckensturm. Andy Burnham est maintenant dans la course pour Downing Street. Alors, quels sont les scénarios ce matin ?
Soit Keir Starmer accepte la réalité politique et il négocie un départ digne d'ici la fin du mois de septembre, ce qui correspond au congrès du Labour. Soit il s'obstine et ça va provoquer les alliés de Burnham à pousser à des démissions massives au sein du gouvernement. Soit encore c'est carrément la guerre totale avec la mobilisation des militants travaillistes et d'au moins 81 députés travaillistes au Parlement qui vont demander un vote de confiance. Pour l'instant, l'équipe de Burnham veut éviter le chaos, mais l'affrontement est inévitable.
Baptiste, quel est le programme que veut appliquer Andy Burnham ? Est-ce que c'est une rupture avec la rigueur de Keir Starmer ?
La rupture est totale avec les rigueurs de Keir Starmer sur le plan économique parce que Burnham veut s'affranchir des règles budgétaires, il veut emprunter et plutôt massivement parce qu'on parle de 40 milliards de livres pour financer le logement social, pour encadrer les loyers, pour aussi créer un service de santé unifié qui intégrerait la dépendance. Pour financer ce projet, il prône ce qu'on connaît bien en France, une politique de redistribution et une augmentation donc des impôts, notamment des plus hauts revenus qui passeraient de 45 à 50%, et une augmentation aussi de la taxe d'habitation pour les logements de luxe. Et il y en a beaucoup ici à Londres. Évidemment, à 9h, on va tous avoir les yeux rivés sur la City, les marchés financiers, pour voir notamment le niveau des obligations d'État britannique, parce que c'est ça qui finance le déficit ici.
Baptiste Muckensturm à Londres pour BFM Business. L'autre information ce matin, c'est le report des discussions prévues en Suisse entre Américains et Iraniens. Jade Evans reste aux États-Unis pour le moment officiellement pour des raisons logistiques, mais aussi sur fond d'incertitude quant à la participation des Iraniens. Dès ce week-end, le guide suprême, lui, avait fait savoir qu'il avait approuvé l'accord malgré des réserves. Réserves aussi pour d'autres raisons de Charles Michel, l'ancien président du Conseil européen, ce matin sur BFM Business et RMC Live.
La Chine a besoin du marché intérieur européen parce que la Chine produit trop par rapport à sa capacité de demande intérieure et le marché intérieur européen est très important pour la Chine. Si c'est le cas, les Européens doivent dire avec clarté à la Chine, nous avons des intérêts de sécurité économique dans les chaînes d'approvisionnement, on doit identifier nos secteurs stratégiques et on doit avoir une discussion très ferme, respectueuse, mais ferme avec la Chine.
Voilà, Charles Michel, qu'on entendra sur l'Iran dans le journal de 9h, mais qui s'exprimait là sur la Chine après ce Conseil européen hier à Bruxelles, où les chefs d'État et de gouvernement ont plutôt temporisé. Pas de confrontation directe à ce stade, ils appellent à une réponse fondée sur l'unité des 27 et le dialogue. Paris, Berlin et d'autres capitales avaient pourtant haussé le ton ces derniers jours. Confronté hier à Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui lui considère la Chine comme un allié potentiel.
Et cette interview dont vous parlez de Charles Michel est à retrouver évidemment sur notre appli, sur notre site bfmbusiness.com immédiatement. Annalisa Capellini, la presse internationale parle de l'accord entre les États-Unis et l'Iran et en particulier du rôle de Jade Evans, le vice-président américain.
Oui, le vice-président qui est obligé d'opérer un virage risqué parce qu'il doit désormais défendre l'accord avec l'Iran, alors qu'il n'y croyait pas vraiment jusque-là. C'est la une du Wall Street Journal qui dit que pour le meilleur et pour le pire, le vice-président est désormais maître de l'accord, maintenant que les négociations entrent dans une nouvelle phase difficile. Ça vient finalement perturber aussi les plans politiques de Jade Evans, hein, le Wall Street Journal le rappelle, le vice-président qui vient de publier un livre qui, selon certains, est sa rampe de lancement pour l'élection présidentielle. Donc, il est devenu, malgré lui, le défenseur de la paix de Donald Trump face aux électeurs. Mais, selon la BBC, il devient aussi le visage de l'accord au sein du Parti républicain. Bah, c'est à lui désormais de faire passer cet accord au sein d'un parti républicain qui ne l'approuve pas vraiment, selon des élus républicains cités par la BBC. C'est une mission ingrate de la part du président Donald Trump, qui a l'habitude de rejeter la faute sur ses subordonnés pour ses politiques impopulaires.
Et puis on était à Londres il y a un instant et la presse britannique de son côté reparle de Brexit.
Et oui, alors que ça fait bientôt 10 ans que le Brexit a été voté. Pourquoi ? Et bien parce que la presse britannique consacre presque toutes ses unes encore au Brexit. Je vous invite à regarder celle du Guardian aujourd'hui, dans laquelle on lit que le Royaume-Uni pourrait rejoindre à nouveau l'Union européenne avec des conditions spéciales. Donc il serait possible de rester en dehors de l'euro et en dehors de l'espace Schengen. Ce qui est étonnant, c'est la personne qui fait ces affirmations. Eh bien, c'est Michel Barnier, l'ancien négociateur en chef du Brexit, qui dit dans les lignes du Guardian que pour lui, il est chaque jour plus évident pour les Britanniques qu'il serait plus fort en Europe. Encore un sujet sur lequel les Européens sont divisés. Les Britanniques, ils sont divisés, hein, eux aussi. Tous les sondages montrent qu'ils aimeraient se rapprocher à nouveau de l'Europe, tout en gardant ces fameuses conditions spéciales qu'ils avaient avant d'en sortir. Donc les mots de Michel Barnier pourraient bien plaire aux Britanniques. En revanche, peut-être qu'ils vont un peu moins plaire à Bruxelles.
Et l'argent du beurre. Merci beaucoup, Annalisa Capellini, les marchés. Et la tendance à moins de 25 minutes de l'ouverture, Étienne Braque.
Moins 0,1% en préouverture pour le CAC 40. L'Europe qui va devoir tourner sans les Américains, puisqu'aujourd'hui c'est un jour férié aux États-Unis, puisque les Américains vont commémorer la fin de l'esclavagisme aux États-Unis. Hier soir, c'était une très belle séance pour le Nasdaq, encore 1,9%, hein, encore des plus hauts ou presque sur les indices américains. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui, encore et toujours de ces RSI qui s'est quand même effondré de 43% hier soir à la clôture. C'est une small et mid cap qui a été boostée par l'intelligence artificielle. Et hier, vous avez un fonds américain, Grizzly, qui a mis en avant le fait que vous aviez potentiellement des chiffres falsifiés dans les récentes publications de chiffres d'affaires. Par rapport à cela, de ces RSI demande aujourd'hui sa suspension sur Euronext. Les cours du pétrole toujours sous les 80$, avec les marchés qui réagissent assez peu au fait que Jed Evans ne va pas tenir des réunions aujourd'hui en Suisse avec les représentants iraniens. Wall Street et le marché du pétrole qui continue d'établir encore et toujours sur le fait qu'in fine, un accord va aboutir.
Merci Étienne. On se retrouve dans un instant pour Good Morning Market, le club de la bourse. Et comme tous les vendredis, c'est Marc Fiorentino qui sera sur ce plateau, associé gérant de Roland. À tout de suite.
Good Morning Market, le club de la bourse.
Good Morning Market avec Étienne Braque sur ce plateau, évidemment. Et comme tous les vendredis, c'est Marc Fiorentino qui nous a rejoint, associé gérant de Roland. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous allez bien? Vous êtes en forme?
Je ne sais pas si je peux dire que je suis en forme. Je suis assez triste cette semaine parce qu'il y a pas mal de nouvelles qui m'ont attristé.
On va y revenir. D'abord, on commence par les déclarations de Friedrich Merz ce matin. Vous vouliez revenir là-dessus?
Oui, c'est intéressant de voir ce qui se passe. Bon, les Allemands se réveillent, il est temps. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est toute cette séquence depuis 25 ans entre la Chine et les États-Unis, et puis la phase finale, en fait, ce qui à l'époque était du long terme, c'est-à-dire à l'époque on se disait, bon, on sait très bien qu'on est en train de se faire avoir avec la Chine quand on l'a fait rentrer à l'OMC, on sait très bien qu'ils font du dumping, mais ça nous a arrangé tous, parce que ils produisaient, c'était l'usine du monde, oui. Ils produisaient des t-shirts, puis on se disait c'est génial parce qu'on va payer nos t-shirts moins cher, donc on n'a pas eu d'inflation pendant 20 ou 25 ans, donc c'était quand même un rêve. Et puis on s'est dit, bon, évidemment... À moyen et long terme, mais 25 ans après, le long terme, c'est devenu du court terme.
C'est le retour de bâton.
Et aujourd'hui, c'est même pas le retour de bâton, c'est une destruction totale de l'industrie européenne. Ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que on n'est pas conscient, on en parle un peu comme est-ce qu'il faut mettre des droits de douane, est-ce qu'il faut renforcer la réglementation. On parle pas de ce que c'est. C'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, la guerre qu'a menée la Chine au monde. Et les États-Unis lui ont fermé la porte avec raison, et maintenant elle se retourne vers l'Union européenne. Ben, c'est un travail de destruction massive. Alors, évidemment, on a des petits exemples. Alors, quand je dis petits exemples, c'est des exemples très importants avec l'industrie automobile, où on donne l'impression que c'est un peu anecdotique, qu'il n'y a que ça. Mais non, mais dans tous les secteurs, c'est une destruction massive, des secteurs à valeur ajoutée. Et puis maintenant, c'est plus les t-shirts, c'est l'intelligence artificielle. Demain, ça va être la robotisation. Les Chinois sont leaders dans le domaine de la robotisation. On parle beaucoup de l'IA, on ne parle pas de la robotisation. La robotisation, c'est la prochaine révolution. Enfin, je dis la prochaine, elle est en cours, révolution industrielle. En gros, c'est un cas d'école de comment un continent, le monde entier, mais surtout un continent, s'est fait complètement avoir. Et Merz essaye maintenant de se dire, il regarde les chiffres, ils sont désastreux. Parce que nous, l'avantage qu'on a, c'est que notre industrie, elle était déjà pas compétitive. La sienne, elle l'était, et la Chine est venue lui manger toute son industrie. On annonce quand même 450 000 emplois dans l'industrie qui ont été perdus en 5 ans en Allemagne. Et puis là, il se réveille en disant « Ah, le yuan est surévalué de 20 à 30 %, c'est ce qu'il déclare hier. » En fait, le yuan, c'est même plus le sujet. C'est-à-dire que même si le sujet, le yuan remontait de 30 %, de toute façon, on n'a plus la capacité de concurrencer la Chine.
Un commentaire, Étienne Braque.
tout cas sur les marchés, vous avez une vraie rotation par rapport à tout ce qu'on vient de dire. La première victime, c'est le secteur automobile. Vous l'avez encore vu cette semaine, BMW qui fait un profit warning.
Et ce n'est que le début.
D'autant plus que BMW vous dit, en Chine, c'est compliqué parce que le consommateur chinois n'achète plus des voitures allemandes. Et donc, c'est là-bas où ces dernières années, il gagnait des parts de marché. Idem pour Mercedes, mais aussi pour beaucoup d'acteurs du luxe français. Et en plus de ça, sur le marché allemand, mais aussi sur le marché européen, vous avez des parts de marché qui se font là aussi grignoter par la concurrence chinoise. Et c'est-à-dire, autant il y a quelques années, on pouvait dire non, mais ils ne sont pas au niveau, etc. Aujourd'hui, quand vous comparez les modèles chinois et les modèles européens, vous avez des modèles qui sont moins chers et surtout sur l'électrique, qui ont une longueur d'avance. Parce que pendant des années, l'Europe et en partie surtout les constructeurs allemands premium ont totalement ignoré la vague électrique.
Alors, on parle de l'automobile, Étienne a raison, mais tu as mentionné le luxe. Le luxe, je pense que ça va être la prochaine automobile. Parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, les nouvelles générations chinoises, les marques chinoises, elles n'ont pas du tout l'image d'une marque de copie cheap.
Non, ils n'achètent plus les marques européennes, là, maintenant, ils achètent leur propre marque.
Et donc, le deal, c'est exactement ce que disait Étienne, c'est-à-dire que le deal, c'était de dire, on vous ouvre le marché chinois, donc on s'est tous précipités là-dedans, parce que c'était quand même une promesse fantastique, quoi. On vous ouvre le marché chinois, puis nous, de toute façon, on ne va pas vous copier. Puis d'un coup, non seulement ils ont copié, mais ils font mieux que nous. Sur la voiture électrique, ça y est, c'est fini, la messe est dite. Sur les chargeurs, la messe est dite. Sur l'intelligence artificielle, maintenant, on est coincé entre les États-Unis et la Chine. Et puis, maintenant, on va avoir les industries. Je pense qu'il va y avoir tous les pans des industries qui vont connaître le sort de l'industrie automobile. Et ça me rend extrêmement triste.
J'ai pas l'impression que l'accord signé cette semaine entre le président américain et iranien vous a redonné de l'énergie,
non.
Marc.
Non, parce que c'est un très mauvais accord.
Oui. Charles-Michel disait ça aussi tout à l'heure.
Oui, on commence à avoir les termes. Enfin, c'est un accord dans lequel il s'est précipité. Alors, en fait, on était certain qu'il ne voulait pas que cette guerre dure. Ça, c'était vraiment mon point de développement du début. Je me suis dit, cette guerre va être courte parce que de toute façon, il y a les midterms, il veut être le président du pouvoir d'achat, il veut que le prix du pétrole baisse. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il se couche comme il est en train de se coucher, juste pour faire un accord le plus vite possible, pour que le prix de l'essence rebaisse, pour que le prix du crédit rebaisse.
Avec tout cet argent déversé en plus.
Avec de l'argent qui va être déversé, avec aujourd'hui... Alors, bon, la seule bonne nouvelle dans ce désastre global, parce que je pense qu'on peut parler de désastre, la seule bonne nouvelle dans ce désastre global, c'est qu'on va peut-être assister à un contre-choc pétrolier. Parce que, voilà, à partir du moment où on va lever les sanctions sur une partie du pétrole iranien, à partir du moment où le pétrole russe continue à couler à flot parce qu'on a ouvert les vannes, à partir du moment où le pétrole du Venezuela va revenir sur le marché, que les Émirats arabes unis ont quitté l'OPEP pour pouvoir produire plus, que les États-Unis produisent à plein, bon, il est certain qu'on va avoir un élément... la pauvre Christine Lagarde va enfin comprendre qu'il n'y avait pas d'inflation et que c'était juste la hausse des prix du pétrole. D'ailleurs, je trouvais ça très intéressant de voir la différence de jugement entre la Banque d'Angleterre et la BCE. C'est quand même incroyable la différence entre ces deux banques centrales. La Banque d'Angleterre, hier, n'a pas relevé ses taux en disant tout simplement... Écoutez, l'inflation est due à la hausse des prix du pétrole. Dès qu'il y aura la fin du conflit, le pétrole va rebaisser, donc il n'y aura pas d'inflation. C'est ce qu'on essaye d'expliquer à la BCE depuis des mois, et elle a remonté les taux. Alors, et c'est l'autre sujet un peu de tristesse, excusez-moi pour cette semaine, je suis pas en grande forme, c'est toutes les indications sur l'économie européenne.
$79 le baril, oui. Ce matin, c'était 77 hier.
Oui, on perd 10% là sur le pétrole, sur l'ensemble de la semaine. C'est quand même l'un des grands enseignements de ces derniers jours. C'est comment le pétrole est tombé comme une pierre. Il faut voir qu'on est monté au-delà des 110-115 dollars au mois de mars. Et là, ce matin, on se retrouve à 80 dollars. Il ne manque plus que 10 dollars. Il faut voir que fin février, juste avant le conflit, on était à 70 dollars. Et ça bouscule totalement toutes les projections. C'est-à-dire que, encore, quand vous regardez les chiffres de l'INSEE sur la prévision de croissance, ils vous disent, oui, le pétrole sera à 85, mais qu'il soit à 85, 70, enfin, à chaque fois, ça change toutes les prévisions. C'est-à-dire que toutes les prévisions qu'on voit ces dernières semaines, il faut les prendre avec beaucoup de précautions parce que tout est basé, ou presque, hein, si je grossis un petit peu le trait, sur ces cours du pétrole et donc, in fine, sur les données d'inflation.
Et encore, là, on est dans cette phase des 60 jours où il va y avoir des hauts et des bas. Parce que là, vous voyez, vous avez dit vous-même, on est remonté un tout petit peu, parce qu'il y a une annulation de la séance de négociation qui devait se tenir aujourd'hui. Donc on va avoir un jeu où les Iraniens vont dire, nous on veut des droits de passage sur le détroit d'Ormuz, les Américains vont dire, on va vous bombarder. Donc c'est pas encore terminé. Donc là, il faut bien dire, expliquer aux gens qui nous écoutent, on n'a pas d'accord final, hein, on a un pré-accord et l'ouverture de négociations qui vont durer... On nous dit 60 jours, ça va être peut-être 90 jours, ça va être peut-être 120 jours parce que les Iraniens sont très forts, parce que pendant ce temps-là, ils vont gagner de l'argent et ils vont vendre du pétrole, ils vont récupérer leurs avoirs gelés. Donc, ils sont très contents de faire perdre du temps. Et donc, pendant ce temps-là, on va avoir le pétrole qui va rester dans ces eaux-là. Mais une fois qu'il y aura un accord, on peut avoir un pétrole qui peut redescendre à 50 dollars.
Étienne ?
Ce qui m'inquiète, et on va bientôt rentrer dans la période des résultats semestriels, c'est la capacité ou non des entreprises à pouvoir s'adapter. Vous avez vu hier quand même Accenture décrocher de 18% parce que le groupe a revu d'un point son chiffre d'affaires pour son objectif cette année. Et encore, c'est un marché très américain, donc c'est le marché qui est censé être le plus résilient. Ils vous disent il y a beaucoup de projets là qui sont au point mort, beaucoup de sociétés qui, eh bien aujourd'hui, ne savent pas où en fait elles en sont, que ce soit sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur leur développement à l'étranger. Et donc ça sera un moment crucial, la fin juillet, début août. En plus, il y a assez peu de personnes sur les marchés à cette période-là, où les entreprises, bah, elles vont devoir ouvrir les comptes et dire bon bah voilà ce qui s'est passé. On a quand même eu un deuxième trimestre, hein, parce que cette guerre a quand même duré quasiment l'entièreté du deuxième trimestre. Qui aura probablement un impact.
Et Étienne, je pense que ce que tu dis sur Accenture est très important. Pour moi, cette baisse a hier de près de 20% et on perd à peu près 60% sur un an. C'est quand même un élément essentiel aussi du prochain sujet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne va plus parler de la guerre en Iran, on va parler de l'IA. Et Accenture, le sujet... C'est évidemment le ralentissement de l'économie, mais c'est surtout le sujet de l'IA. C'est-à-dire le sujet de se dire, en fait, on voit très bien ce que l'IA détruit. On le voit très bien. On voit très bien ce que l'IA permet de gagner, mais de gagner en termes d'investissement, pour l'instant pas en termes de rentabilité. Les chiffres de SpaceX sur la partie IA sont mauvais, sur OpenAI ils sont mauvais, sur Anthropic ils sont mauvais, par rapport à des investissements qui sont colossaux. Mais pour l'instant, on voit toujours pas le bénéfice, il va falloir du temps, en termes de rentabilité de l'IA. Donc ça, le sujet des mois qui viennent sur la bourse, et pour Étienne et pour nous, ça va être l'IA.
Et puis, c'est là qu'a choisi d'entrer en lice Kevin Warsh à la tête de la Fed cette semaine. Il dit qu'il va rester indépendant.
Oui, mais c'est, je suis très très surpris de tous les articles et de tous les commentaires qui tombent dans le panneau de il a changé de ton, il était colombe, il est devenu faucon. En fait, ce gars est super intelligent. C'est-à-dire qu'évidemment, il a les mains liées. C'est-à-dire qu'il ne peut pas remonter les taux d'intérêt. Voilà. Il est au service de Donald Trump, c'est Donald Trump qui l'a nommé. Il va devoir baisser les taux d'intérêt, probablement avant la fin de l'année. Il va devoir les baisser. Sauf que quand vous êtes face à des marchés qui ont besoin d'être assurés sur votre combat de l'inflation, ben en fait, vous faites le plus simple. C'est-à-dire vous faites des déclarations qui sont des déclarations dures pour ne pas avoir à faire des actions qui sont des actions qui vont être molle. Et donc, pour gagner en crédibilité, il dit, dans l'inflation, je vais vraiment me battre. Et puis, tout le monde tombe dans le panneau en disant, oh là là, mais c'est complètement dingue, il va remonter les taux d'intérêt alors qu'on avait dit. Mais évidemment qu'il va pas remonter les taux d'intérêt. Il va pas les remonter parce que d'abord, comme disait Étienne, la situation aux États-Unis, pour l'instant, elle est bonne, mais quand même, il y a quand même des signaux faibles qui sont pas très bons. D'accord. Pour l'instant, on sait très bien que tout ça tient grâce à l'IA. Deux tiers de la croissance, directement ou indirectement, vient de l'IA. On va voir ce que tout ça va donner. Et puis, de l'autre côté, on est dans une situation globale, mondiale, avec une croissance qui est quand même une croissance relativement bonne. Prix du pétrole qui baisse, donc moins d'inflation, donc aucune raison de monter les taux d'intérêt. Mais on est tous tombés dans le panneau.
Étienne, pour finir.
Pour boucler la boucle, il sera également question d'inflation, puisque Kevin Warsh est persuadé que l'inflation va améliorer la situation de l'inflation aux États-Unis. Il pense en fait que ça va apporter des gains de productivité et que donc, in fine, les problèmes actuels aux États-Unis, parce que ça fait quand même depuis 2021, ça fait 5 ans que l'objectif des fameux 2% d'inflation aux États-Unis sont dépassés. Alors certes, là, ces dernières semaines, ça a été fortement pénalisé par les cours du pétrole sur l'inflation, mais il y a une inflation qui est quand même toujours persistante dans le secteur des services. Et Kevin Warsh, ça fait plusieurs semaines qu'il dit non, mais vous inquiétez pas, vous allez voir avec l'inflation, il y aura des gains de productivité et donc in fine ça va donner un petit peu un bol d'air. Là aussi il faut lui laisser un petit peu de temps parce que pour l'instant on parle beaucoup d'inflation mais les gains de productivité dans les entreprises on peut les voir dans certaines entreprises mais c'est pas encore généralisé.
Mais on commence à les voir dans les chiffres, c'est très important. On commence à voir aujourd'hui le grand gagnant de la productivité, ça va être les États-Unis, c'est certain.
Marc Fiorentino à la tête de C'est votre argent. Ce sera à 20h. Ce sera une émission exceptionnelle.
Ouais,
on va parler
c'est
de
ce qu'on
tout
m'a
ça.
Dit. On vient de me dire que c'est exceptionnel. On vient de me l'annoncer dans l'oreillette.
Merci beaucoup, Marc. Dans un instant, Good Morning Market. Et lundi matin, juste avant 6h, vous retrouverez Laure Clausier à la tête de la matinale. J'ai été ravie d'être avec vous tout au long de la semaine. Très bonne journée sur BFM Business. Dans un instant, Étienne Braque, Good Morning Market.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Braque.
8h58, dans deux minutes, il sera 9h. Le CAC 40 est en très légère baisse. Elle est quasiment à l'équilibre. Juste avant, nous reviendrons bien sûr sur les grandes valeurs qui ont fait l'actualité hier. Vous avez quand même vu Edenred gagner 17% à la clôture. Le groupe qui a confirmé eh bien, que oui, il y a plusieurs fonds d'investissement qui s'intéressent à Edenred. Le groupe qui était sur des valorisations extrêmement basses ces dernières semaines s'est donc repris d'une façon spectaculaire hier. À l'inverse, moins 17% pour Accenture. Là par contre c'est vraiment la douche froide. Le titre perd 50% depuis le début de l'année, moins 70% depuis ses plus hauts historiques, avec un groupe qui le dit très clairement, beaucoup d'incertitudes de la part de nos clients avec le conflit en Iran et puis aussi et surtout avec l'intelligence artificielle. Un groupe quand même de plus de 700 000 salariés dans le monde, hein. Ce sont les effectifs de Accenture qui doit aujourd'hui pivoter sur l'intelligence artificielle et c'est difficile. Le groupe s'attend à faire un peu moins de croissance pour cette année et le marché n'a pas fait de cadeau. Le titre est sur des plus bas de 10 ans. François Monnier nous accompagnera de la direction de la rédaction d'Investir afin de revenir un petit peu sur l'optimisme BA des marchés en ce moment. Jim Evans, on le verra dans un instant dans le flash de Léo Dumas, ne va pas venir en Suisse aujourd'hui, mais pas beaucoup de réactions sur les cours du pétrole. L'Europe, je vous disais, en préouverture, on est quasi stable. Quand du côté de Wall Street, hier soir, c'était la dernière séance de la semaine et le Nasdaq a gagné 1,9%. La tech continue encore et toujours de tirer les indices, que ce soit bien sûr sur la partie américaine, mais également européenne, puisque typiquement hier, le Eurostock 50 a touché un record historique grâce à ASML qui a doublé depuis le début de l'année et qui a repris quasiment 20% en l'espace d'un mois. Dans un instant, nous détaillerons toutes ces actualités, mais juste avant, le rappel des titres avec Léo Dumas.
Good Morning Market, le journal.
Et donc, faux départ pour les 60 jours de négociation. Le compte à rebours est lancé, a dit Jade Evans, mais le vice-président des États-Unis ne part finalement pas en Suisse pour l'instant. Berne confirme le report de ces discussions, mais dit que les travaux préparatoires se poursuivent. La Maison-Blanche évoque des questions logistiques cette nuit, alors que l'incertitude planait quant à la participation des Iraniens. Dès ce week-end, le guide suprême avait quand même fait savoir hier qu'il avait approuvé cet accord avec Donald Trump, malgré ses des réserves qui viennent de toutes parts face à ce deal. Écoutez celle de Charles Michel, l'ancien président du Conseil européen, ce matin sur BFM Business.
Cet accord ne prévoit rien sur les missiles balistiques, rien sur le soutien de ce régime criminel iranien aux proxys qui déstabilisent la région. C'est très léger sur la question du nucléaire. On a vu Donald Trump être très critique concernant l'accord précédent conclu par Obama. En fait, c'est l'accord précédent, mais en bien pire en réalité, puisque il y a en plus 300 milliards qui sont promis en termes d'investissement à l'Iran, l'ouverture des sanctions. Les sanctions sont potentiellement retiré, donc c'est extrêmement décevant.
Voilà Charles Michel ce matin sur BFM Business, interview à retrouver en replay, en podcast sur toutes les plateformes. Au Royaume-Uni, la course pour Downing Street est relancée. Andy Burnham vient d'être élu député, c'est le maire de Manchester et c'est surtout le principal opposant à Keir Starmer qu'il compte défier au sein du parti travailliste et sans cacher ses ambitions ce matin juste après l'annonce des résultats.
Je le dis à mon propre parti, c'est la dernière chance de changer. Nous devons agir en conséquence et nous devons réussir. Il n'y aura pas de deuxième chance.
Et puis les Européens cherchent la parade face à la déferlante d'importations chinoises. Mais le Conseil a, semble-t-il, dû temporiser. Hier soir à Bruxelles, il n'y aura pas de confrontation directe à ce stade avec Pékin. Les chefs d'État et de gouvernement appellent plutôt une réponse fondée sur l'unité des 27 et le dialogue. Paris, Berlin et d'autres capitales avaient pourtant adopté un ton bien plus offensif ces derniers jours, confronté hier à Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol, qui lui se dit opposé à toute nouvelle mesure, considérant la Chine comme un allié potentiel.
Merci beaucoup Léo Dumas pour ce rappel de l'information. 9h01, le CAC 40 ouvre sur un zéro pointé ou presque, plus 0,1% à l'ouverture. 8476 points du côté de l'Eurostock 50. À l'inverse, c'est une légère baisse de 0,1%. Les marchés européens qui sont sans grande tendance ce matin à l'ouverture, comme le pétrole qui est toujours à la porte des 80 $, 79 $ ce matin pour le baril de Brent. À noter qu'il n'y aura donc pas de séance aujourd'hui aux États-Unis et pour cause, les Américains vont commémorer la fin de l'esclavage. Donc par rapport à cela, eh bien hier soir, c'était la dernière séance de la semaine avec un Nasdaq qui a grappillé quasiment 3% sur 1,9% pardon, sur la séance d'hier, avec un écart toujours très grand entre le Nasdaq et le Dow Jones, dans le sens où le Dow Jones n'a pris que 0,1% à la clôture. LVMH, Total Energy et Thales sont les trois plus fortes hausses à l'ouverture, et puis à l'inverse, le Grand qui a enchaîné les hausses ces dernières semaines souffle un petit peu, moins 1,1% pour le Grand à 150,50 €. Les valeurs à suivre aujourd'hui de CRSI, le groupe qui a dégringolé hier de près de 43%, a demandé à Euronext de suspendre sa cotation aujourd'hui afin de lui laisser un petit peu le temps de réagir aux accusations du fonds activiste Greedy qui hier a mis en avant que le carnet de commandes, le chiffre d'affaires de CRSI était gonflé. Les doutes, bien sûr, dans ces circonstances font dégringoler les valeurs et donc hier, de CRSI qui a reculé de plus de 43%, sachant que le titre avait très largement doublé depuis le début de l'année. Nous étions à 25,40 € hier soir à la clôture et donc le CAC 40 qui est en très légère hausse de 0,2% à 8487 points. Dans un instant, Franklin Pichard nous reviendra de Kipling Finance afin de revenir sur Edenred qui a donc gagné 17% hier soir à la clôture. Les fonds d'investissement s'intéressent à ce titre qui, souvenez-vous, était l'une des stars du CAC 40 et qui en est sorti ces derniers mois. Et puis nous reviendrons également sur Renault qui a multiplié les partenariats avec notamment Thales dans le segment de la défense, ou encore OVH qui a fait l'actualité cette semaine. Le titre a plus que doublé depuis le début de l'année. Après, il faut le dire, un parcours qui a été très compliqué depuis son introduction en bourse. À tout de suite.
BFM Business présente Good Morning Market. Étienne Brack.
Et c'est parti pour Good Morning Market jusqu'à 9h30. Et puis ensuite, vous retrouverez les experts de l'intelligence artificielle autour d'Anthony Morel. Le CAC 40 est donc en hausse de 0,3% finalement. Beau retournement ces dernières secondes. 8492 points. C'est une séance importante aujourd'hui, une séance à sorcières. Nous verrons cela avec Romain Daubry, puisqu'il s'agit d'une séance à quatre sorcières. Échéance trimestrielle sur bon nombre d'options ce vendredi 19 juin. À 9h07, on va regarder un petit peu les valeurs qui font l'actualité en ce moment avec Franklin Pichard, le directeur de la recherche de Kipling Finance. Bonjour Franklin.
Bonjour Étienne.
Merci d'être avec nous ce matin pour revenir sur Edenred qui a donc gagné 17% hier soir à la clôture. Nous reparlerons également de Renault ou encore d'OVH. Bon, commençons par Edenred. 17%, c'est pas tous les jours quand même pour cette valeur qui vient de loin puisqu'elle a été écartée du CAC 40. Le titre est passé de 60 € en si on grossit un petit peu le trait, à 15 € là, au printemps dernier, parce qu'il y avait pas mal d'interrogations sur le business model. Et là, visiblement, le niveau de valorisation est tellement en bas que vous avez certains fonds d'investissement, notamment britanniques, qui ont approché la direction en disant « Tiens, ça a l'air pas mal, votre business ».
Oui, et on voit que les fonds d'investissement actuellement aiment s'intéresser aux sociétés cotées, tout ce qui est private equity aujourd'hui avec la remontée des taux d'intérêt est un petit peu moins attrayant. Et donc, tous ces fonds regardent un petit peu les pépites qui peuvent être encore dans le marché. Alors, Edenred, il y a eu effectivement hier une news qui est sortie par la lettre et qui laissait supposer que ce fonds BC Partners était en train d'étudier une OPA et une offre publique de retrait sur Edenred. Alors, ce qui a agité le marché, c'est qu'effectivement, le prix qui était avancé pour cette opération était de 27-28 €. Le titre a donc bondi pour finir hier soir à un peu plus de 24 €. Donc, la mariée est un petit peu moins belle aujourd'hui pour les investisseurs. C'est-à-dire que si ça s'établissait sur un cours de 27-28 €, finalement, on prend beaucoup de risques pour une plus-value potentielle et qui sera nettement moindre qu'elle ne l'aurait été avant-hier. Donc, les analystes sont un petit peu plus prudents aujourd'hui sur l'intérêt et l'opportunité d'attraper le train en marche. Et puis enfin, vous avez quand même aussi une dynamique de la part d'analystes qui disent, mais vous venez de le souligner, Étienne, le PE est faible, ça se paye 10 fois, un secteur qui se paye autour de 20 fois. La vraie valeur, selon les analyses, c'est à peu près 14 fois. Si ça se paye 14 fois, ça ferait un cours et une opération qui devrait se faire à des niveaux supérieurs à 30 euros, 30, 34 euros. Là, ça redonnerait véritablement un attrait spéculatif à la valeur. Alors, on va observer ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, mais le potentiel actuel sur la base de ce qu'on connaît fait qu'on va regarder si on en a pas. Si on en a, on les garde. Si on est très joueur, on peut faire le pari. Mais rappelons que pour le moment, ça n'est qu'une rumeur de marché. Ça n'a
qui
pas
a été confirmé par la direction. Hein. Le groupe a bien dit oui, on a discuté avec des fonds. C'est une façon de dire, vous voyez, on n'est pas cher, il y a des gens qui s'intéressent à nous. C'est aussi
voilà,
un exercice exactement. De communication.
C'est une bonne guerre. Bien sûr.
Ouais, une bonne guerre. En tout cas, après cette hausse de 17% hier, le titre est en baisse de 1,7% ce matin à 23,82 €. Renault, de son côté, multiplie les partenariats dans la défense. On l'a vu cette semaine, avec Thales notamment. Bon, c'est une diversification qui, pour l'instant, avance à tâtons, dans le sens où le groupe dit non, mais notre cœur de métier, ça va rester l'automobile. On ne va pas devenir un groupe de défense. Néanmoins, ça fait les titres.
Ah ben, ça fait, oui, tout à fait. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que si on se reporte il y a 3-4 semaines en arrière, Renault et son PDG ont fait des grandes déclarations en disant, attention, on est automobile, on n'est pas du tout un groupe militaire, ça ne représentera pas plus de 5% de notre chiffre d'affaires. Alors, 5%, ça fait à peu près un peu moins de 3 milliards d'euros sur un chiffre d'affaires de 58 milliards pour Renault. Donc, Renault s'est attaché à préserver son image. Hein. Ils veulent rester ESG, environnemental, sociétal, avec une gouvernance. Donc, c'est un petit peu ce qu'ils ont défendu. Mais au-delà de ça, bah, au moment où ils disaient ça, c'est quand ils sont effectivement, comme vous le disiez, intervenus et qu'ils ont racheté une entreprise et fait un partenariat avec une entreprise de drones au Mans, donc Turgis Gaillard. Donc ça, c'était le premier pas. Vous le rappelez, ils annoncent maintenant qu'ils vont être associés à Thales pour fabriquer et optimiser leurs usines dans la fabrication de drones kamikazes. Et là, on parle d'une production de 1000 drones par jour. Donc, par mois. 1000 drones par mois. Et on voit que Renault, sans avoir l'air d'en parler trop, pousse ses pions dans le secteur de la défense. Et puis enfin, on a eu une nouvelle, hein, Renault qui s'est rapproché et qui a pris une start-up qui s'appelle Wondercraft, qui fait des robots humanoïdes. Et là, c'est un autre aspect, on n'est plus du tout dans le militaire, mais ce sont des robots humanoïdes pour remplacer l'humain dans les usines. Et en l'occurrence, ça permettrait d'améliorer les marges et de pouvoir replacer un petit peu la profitabilité dans des zones où aujourd'hui la main-d'œuvre est très chère. Mais ça, Renault n'en parle pas beaucoup, parce qu'on est en train de dire qu'on va remplacer l'humain par des robots. Aujourd'hui, il y a des essais, on leur fait porter des pneus, enfin bon, on le voit un peu partout, ce qu'on peut faire et demander aujourd'hui à des robots. Et Renault a annoncé et prend donc des parts dans des sociétés pour régler ce problème des charges.
Le secteur automobile souffre en bourse, et encore le mot est faible, et encore c'est pas le pire, hein, Renault, par rapport à d'autres acteurs. Moins 25% là, year to date, là, depuis le début de l'année. 27 euros. C'est une valeur de rendement, mais le rendement ne fait pas tout, hein, parce que ce titre a quand même tutoyé les 40 euros, donc on a beau avoir un coupon à la fin, il y a quand même une moins-value latente ou tout simplement une moins-value. Est-ce qu'à 27 euros, vous dites, tiens, c'est pas cher Renault, sachant que c'est pas cher, mais le secteur automobile a toujours été pas cher?
Alors, le secteur automobile a toujours été pas cher, mais quand on regarde le graphique de Renault, on s'aperçoit que là, on est vraiment très très bas. Alors, vous évoquez le rendement, c'est vrai que l'intérêt de Renault, c'est qu'on a un couple rendement-risque qui est plutôt favorable. Hein. Le rendement, c'est 8%. 8%, vous ni de le souligner. Quand on perd 23%, que faire de 8% de rendement si on perd 23% sur son capital? L'opération est vite faite. On perd 30% sur les 12 mois glissants. Je pense qu'aujourd'hui, Renault vaut quand même mieux que ça. Tous ces gages d'ouverture et diversification qui... En un mois, déjà, trois belles opérations sont annoncées. On voit quand même qu'il y a un virage qui s'opère. Et pour le fait, je pense qu'à ces niveaux-là, oui, bien sûr, on est sur un secteur compliqué, l'automobile. Mais là, sur Renault, on a peut-être une fenêtre pour pouvoir entrer à des niveaux autour de 27-28 euros qui semblent intéressants.
Renault qui est devenu l'une des plus petites valeurs du CAC 40 quand même. Hein. Ça ne pèse plus que 7,3 milliards d'euros de capitalisation boursière. 27,57 euros à l'instant, c'est une hausse de 2%. Et puis il nous reste à peine 2 minutes pour parler d'OVH qui a un parcours spectaculaire depuis le début de l'année. Alors on n'est toujours pas sur le prix d'introduction en bourse, mais quand même le titre fait plus de x2 depuis le 1er janvier.
Oui, c'est ça. Le titre progresse de quasiment 140%. Sur 12 mois glissant, il ne fait que 22%. Alors, OVH, on parle d'un des rares acteurs européens dans le cloud qui a une taille significative. On lui a toujours reproché, quelque part, d'être petit par rapport aux mastodontes que sont Amazon, Microsoft et Google. L'accélération actuellement du titre, comme vous venez de le souligner, c'est grâce à la croissance dans l'IA, les opérations de stockage de données, les besoins de souveraineté dynamique, c'est ça actuellement numérique européenne qui actuellement dynamise le titre. Et pour ce faire, effectivement, il n'y a pas 50 acteurs de taille significative en Europe, et en l'occurrence pour les investisseurs français qui veulent rester français. OVH est une opportunité. Maintenant, il y a une prudence des analystes. Le titre valait à peu près 11 euros il y a un mois. Il en vaut 17 aujourd'hui. On vient de connaître un bond spectaculaire d'OVH. Donc, prudence. Attendons un repli. Je pense qu'on peut avoir une correction technique. Attendons un repli sur OVH. Mais prudence sur l'envolée du titre depuis quelques semaines.
Plus 135% depuis le 1er janvier. C'est une small mid-cap. Hein. Ça pèse 2,6 milliards de capitalisation boursière. Merci beaucoup, Franklin Pichard, nous a accompagné ce matin, directeur de la recherche de Kipling Finance, afin de revenir donc sur OVH, sur Renault et enfin sur Edenred. 9h16 sur BFM Business. On va continuer à parler de l'actualité financière boursière avec François Monnier qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour François.
Bonjour Étienne.
Directeur de la rédaction d'Investir. Avec vous, on va revenir un petit peu sur la réaction des marchés ces derniers jours. Bon, tout va bien. Le pétrole est sous les 80 dollars. L'Eurostoxx 50 est sur un record historique. Je voyais, mine de rien, depuis le début de l'année, on est à plus 9. Hein. L'Eurostoxx n'a pas à rougir face au S&P 500, hein, qui est à plus 10,5%. Comment vous regardez un petit peu ce qui se passe? Les marchés, depuis des semaines, se disent « Non, mais le conflit, eh bien, il va bien réussir à s'apaiser. » Là, aujourd'hui, Jed Evans dit « Non, mais finalement, je ne vais plus en Suisse. » Bon, le pétrole ne bouge pas, les marchés actions progressent. Bref, le scénario optimiste demeure encore et toujours.
Absolument, on a la confirmation d'abord que les marchés sont capables de progresser même pendant une période de conflit, pendant une guerre. Ça, on a une multitude de statistiques qui ont montré que le marché action a une capacité d'adaptation remarquable, exceptionnelle. On a eu des records à Wall Street. Et quand on regarde même en Europe, hein, depuis le conflit, on a eu quand même un marché qui a progressé. Le Stoxx Europe 600 a progressé de 1%. Si vous rajoutez les dividendes, on est à près de 3%. Donc le marché tient bien. Les histoires, les grandes tendances persistent, voire même accélèrent. La plus grande tendance, bien sûr, c'est sur les semi-conducteurs et l'IPO de SpaceX et les prochaines IPO, introduction en bourse de ChatGPT avec OpenAI, avec Claude et Anthropic. Ça milite pour toujours injecter de l'argent dans la fabrication de toutes les infrastructures liées à l'intelligence artificielle, et donc ça va bénéficier au secteur des semi-conducteurs. Donc les scénarios qui prévalaient avant le conflit ont même été renforcés depuis. Donc, toujours un engouement très très fort sur la tech, et c'est la tech, finalement, qui fait monter le marché. Donc ça, c'est un mouvement extrêmement puissant qui se vérifie parce que les publications des résultats ont montré que cette croissance des acteurs des semi-conducteurs était extrêmement rentable, et ces acteurs des semi-conducteurs sont capables aussi de continuer à racheter des actions. Nvidia va racheter près de 80 milliards de dollars d'actions. Donc, bien sûr, ça milite toujours pour un engouement extrêmement puissant. Donc, finalement, les grands courants sont toujours là. Il faut quand même surveiller un petit peu le comportement de l'énergie, parce que vous l'avez rappelé, les cours du pétrole ont fortement reflué. Elles sont maintenant plus vraiment très très loin des cours qu'on ne pouvait observer avant la guerre.
10 dollars, on n'est qu'à plus de 10 dollars.
Voilà, donc ça allait plutôt très très vite. On voit que les compagnies pétrolières, elles, en revanche, n'ont pas encore entamé leur reflux. Donc là, en termes d'allocation de portefeuille, autant nous, chez Investir, on est extrêmement confiants et on a même envie de continuer à surpondérer, à renforcer le secteur des semi-conducteurs. Autant sur l'énergie, il faut plutôt sous-pondérer. En tout cas, il n'est pas trop tard pour prendre ses bénéfices parce que finalement, un cours d'une compagnie pétrolière, ce n'est que le reflet des cours du pétrole. Avec parfois un temps de latence où on anticipe, où on a un temps de retard. Mais là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a véritablement un temps de retard de la part du secteur de l'énergie. Et donc, ce secteur de l'énergie devrait, si les cours du pétrole restent à ces niveaux-là, voire même s'ils continuent de baisser, parce que nous, notre scénario, c'est que les cours du pétrole vont continuer encore de baisser et que d'ici la fin d'année, il est possible qu'on ait même des cours inférieurs au cours qu'on pouvait observer avant le début du conflit, parce qu'on a quand même on est sur une production qui est massive, et donc il faut plutôt être extrêmement prudent sur l'égard de l'énergie. Donc finalement, on a des convictions qui restent imperturbables. Le reflux des cours du pétrole valide aussi le fait que le marché a encore de la puissance pour monter, parce que ça retarde la hausse des taux de la Fed. Ça a mis dans une position extrêmement confortable le nouveau patron de la Fed, parce que s'il n'y avait pas eu cet accord, s'il n'y avait pas eu ce repli assez spectaculaire des cours du pétrole, peut-être qu'il aurait été contraint pour assurer une crédibilité à augmenter ses taux, comme l'a fait par erreur la Banque Centrale Européenne. Et donc là, finalement, on sait qu'on n'aura pas de hausse de taux non plus en juillet, et ça renvoie en septembre, mais en septembre, d'ici là, il va se passer probablement...
Est-ce que c'est l'heure de la rotation sectorielle, ou cette rotation sectorielle a déjà eu lieu? Vous parliez de secteur énergétique, hein, typiquement Total a déjà perdu 10-12% depuis son plus haut du printemps dernier. On voit le secteur du tourisme, hein, les Marriott, les Accor, les Hilton qui ont déjà repris 10-15%. Donc c'est vrai qu'en fait, cet accord, il a déjà été en partie joué par la bourse.
Oui, en partie, mais pas totalement. Il y aura probablement, parce que ce qu'on voit, c'est que, comme vous dites, l'accord a généré une rotation, mais finalement, il y a eu très peu d'impact sur les taux longs. Sur les taux, quand on regarde les taux des États à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, le 30 ans, on est toujours sur des taux qui restent quand même assez, assez robustes, parce que là aussi, on ne change pas de scénario. On pense quand même qu'on est quand même sur une tendance plutôt inflationniste. On a énormément de besoins dans l'intelligence artificielle, on vient d'en parler. On a énormément de besoins dans l'électrification. On a énormément de besoins d'adaptation au dérèglement climatique. Donc finalement, on a des montants et des montagnes d'investissements qui sont juste impressionnantes, extrêmement même, qui peuvent faire peur. Et puis, on a toujours aussi des montagnes de déficit et de dette de la part des États. Donc, quand vous êtes prêteur, ben, vous voulez une garantie, et puis surtout, vous avez le choix de savoir à qui vous allez prêter. Et donc, finalement, vous réclamez des taux de rendement, des taux d'intérêt extrêmement élevés. Donc, c'est tendance de fond que de dire que, quel que soit le contexte, on va avoir des taux quand même qui sont extrêmement robustes à long terme. Eh bien, ça milite là aussi pour une rotation sectorielle en défaveur des utilities. Parce que les utilities, bah, leur valorisation dépend des taux longs. Et donc finalement, bah, les utilities, ce qu'on appelle les producteurs d'électricité par exemple, eh bien, eux devraient quand même souffrir de ce contexte. Donc la rotation devrait être en défaveur des pétrolières, de l'énergie, en défaveur des utilities. Donc là, ce sont les deux secteurs qui devraient, je pense, souffrir dans les semaines et les mois à venir. Donc nous, chez Investir, on conseille plutôt de s'alléger, de prendre ses bénéfices sur tout ce qui est utilities et bien sûr sur l'énergie qui, pour le coup, a fortement monté et qui devrait plutôt fortement baisser dans les semaines à venir.
Et quelle poche vous renforcez en dehors de la poche? On l'a compris, IA et toutes les valeurs, notamment l'électrification.
Là, il faut marcher sur deux pieds, sur deux jambes. On a bien sûr les semi-conducteurs, où vous savez, il y a les multiples de valorisation, ouais, qui sont extrêmement élevés. Hein. On parle de 40, 50 fois sur des ASML, mais on trouve toujours des belles opportunités. Micron Technologies, c'est des PER de 18 fois. Donc là, on est vraiment sur encore des vraies opportunités d'achat. Et puis, à l'opposé, vous avez le secteur de la banque.
Qui s'est repris là dernièrement.
Qui s'est repris, mais on a toujours des niveaux de valorisation extrêmement faibles, avec des rendements extrêmement forts. Donc c'est ces acteurs qui sont capables de distribuer des dividendes sympathiques. Il y a un petit peu de consolidation en Europe, donc ça fait pas de mal à ce secteur-là. Donc en Europe, on renforce sur la partie banque, donc l'approche value. Et puis la croissance, les semi-conducteurs. Et c'est vrai que quand on regarde cette thématique croissance, c'est vraiment les semi-conducteurs qui captent toute la croissance, parce que aucun secteur n'est capable de les suivre en ce moment. Donc on a vraiment ce besoin de renforcer semi-conducteurs et banques dans le contexte actuel, et de réduire sur tout ce qui est énergie, utilities.
Ah ben l'exemple, c'est BNP Paribas, hein, qui est depuis cette semaine sur un record historique. Le titre est au-delà des 101 euros. Merci beaucoup. François Monnier nous a accompagnés ce matin, directeur de la rédaction d'Investir, pour débriefer un petit peu cette semaine qui, une nouvelle fois, très instructive sur les marchés. 9h24, on va rejoindre Romain Daubry qui nous attend pour cette séance importante, puisque c'est une séance à quatre sorcières. Avec quatre types de contrats qui arrivent à échéance aujourd'hui, échéance trimestrielle. Bonjour Romain, vous êtes consultant chez Bourse Direct ainsi que cofondateur de l'atelier des options. Le CAC 40 est en très légère hausse finalement de 0,2%, alors qu'en préouverture c'était assez timide.
Oui, c'est toujours un peu timide, assez haussier, mais mollement sur l'indice parisien. Vous le disiez à l'instant, on est à l'aube de la clôture des marchés de plusieurs contrats dérivés d'options et de futures sur en Europe. Donc, échéance des quatre sorcières, échéance trimestrielle du mois de juin, c'est toujours un moment important. Ça peut être un pivot de marché, c'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être, surtout pour une échéance majeure comme ça. Donc, quatre types de contrats d'options et de futures qui vont clôturer aujourd'hui. Il faut rappeler que ça a eu lieu hier à Wall Street, puisque Wall Street est fermée aujourd'hui pour Juneteenth. Donc, un mouvement qui va être un petit peu particulier puisqu'on le fait en l'absence de marché américain. On voit que si sur l'indice parisien, c'est un peu entre deux eaux, on est bloqué entre deux grands gaps, celui qu'on a ouvert vendredi dernier au-delà des 8300 points et puis sous le gap baissier qu'on avait ouvert le 2 mars à 8500 points. La reprise a été moins flagrante sur l'indice CAC 40 que sur le reste du marché. Je pense notamment à l'indice Eurostock 50 qui est progressé de plus de 6% par rapport à ses points bas récents. 6 séances de hausse d'affilée. On entame cette 7e séance de façon un peu mitigée contre des niveaux de résistance, 6344 points. C'est une cible importante. On a accompagné ce mouvement avec un intérêt acheteur. C'est tout l'intérêt des marchés dérivés, c'est de mesurer la force, eh bien avec un intérêt acheteur qui est quand même modeste et surtout hyper concentré. Vous l'évoquiez à l'instant, il y a deux secteurs notamment qui ont surperformé l'Eurostox, c'est le secteur bancaire bien entendu et puis le secteur de la technologie en Europe. On a un petit peu le secteur de l'assurance aussi. Sur 15 secteurs, ça fait une concentration qui est quand même importante et en plus, on aborde cette résistance majeure sur l'indice Eurostox avec une complaisance qui est extrêmement importante. On a un ratio put-call, c'est aussi l'intérêt des options, c'est de mesurer l'état d'esprit des investisseurs qui est hyper bas. Je crois ne pas l'avoir relevé aussi bas sur l'indice Eurostox depuis des années, aux alentours de 0,33. Ça signifie qu'on a quasiment que des options d'achat ouvertes par les opérateurs autour de la monnaie et très très peu d'options de vente, donc très peu de protection. Il faut dire que ça n'est pas un signal de baisse en soi, c'est simplement le fait que les opérateurs ne sont pas protégés. Donc si un événement venait à surprendre, s'il y avait un contre-pied, eh bien il pourrait y avoir des mouvements un peu plus prudents puisque les opérateurs ne sont pas protégés. Or, on aborde cette séquence importante puisque, comme je vous le disais, l'échéance des marchés dérivés, c'est souvent un pivot de marché, avec donc sur des plus hauts, donc qu'on assiste à un mouvement de consolidation sur l'indice Eurostox. Et puis peut-être, pourquoi pas, à une rotation sectorielle qui viendrait ensuite, mais on n'a pas tout pour l'instant de signaux majeurs pour ça. Donc attention à des mouvements de prise de bénéfices ou de consolidation. On n'est pas très décidé sur l'indice parisien. Si on veut regarder quelques éléments, il y a plutôt du stock picking à faire. Je pense par exemple au secteur du luxe qui s'est comporté un petit peu mieux récemment. Merci. On voit que sur LVMH, on n'arrive pas à confirmer, alors que sur Kering, c'est du mieux. Et puis sur Hermès, eh bien, il y a un mouvement qui est un petit peu entre deux eaux aussi. Donc vous voyez des dégradations qui sont différentes selon les valeurs et les secteurs. Et pour l'instant, plutôt une situation, à mon avis, d'attente après une accélération haussière qui a été très, très concentrée.
Et cet Eurostock 50 qui est parfaitement stable ce matin, sur le même niveau qu'hier soir, ou presque, à 6327 points. Merci beaucoup, Romain Daubry, de nous avoir accompagnés ce matin, cofondateur de l'Atelier des options. Le CAC 40 progresse donc de 0,15%, 8480 points. Pas de séance donc aujourd'hui à Wall Street, puisque les Américains vont commémorer la fin de l'esclavage. Dans un instant, vous retrouvez les experts de l'IA avec Anthony Morel en direct de Vivatech. La séance américaine Donc il n'y en a pas aujourd'hui, mais vous pourrez quand même suivre BFM Bourse, toute l'actualité autour des marchés, avec autour de Guillaume Sommerer, ses invités, 15h30 et puis 11h, tout pour investir, la masterclass avec Christopher Dembick. Très bonne journée.
Good Morning Market sur BFM Business.